Bonjour à tous, bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Hey, you know what? Les Nouveaux Chemins défendent quotidiennement un nihilisme actif en compagnie de Jean Danielou, Marianne Chassor, Valentin Schmitt, Marianne Chassor, que j'ai déjà nommée, Mathilde Wagman et Géraldine Mosna-Savoie, à la réalisation de comédies musicales subversives, Midia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son un verre de lait à la main, Alain Droug. Sur l'écran, un visage légèrement incliné vers le bas, les yeux en direction des nôtres, chapeau rond enfoncé sur le front, œil gauche qui soutient notre regard, œil droit intensifié par deux rangées de fossiles, créant une asymétrie troublante que vient relayer une fossette légèrement plus marquée que l'autre. Verre de lait à la main, le défi est lancé. Combien de temps allons-nous, spectateurs, pouvoir soutenir ce regard qui contient déjà le rire destructeur de celui qui ne fait aucune différence entre le monde qui l'entoure et celui qui l'imagine. Maître en sa demeure, voilà ce que nous dit ce visage moqueur et déterminé, formule que le cinéma de Kubrick ne va cesser de questionner film après film. Que faire des démons de la raison qui conduisent l'homme à sa propre perte? De l'impossibilité d'affronter la mort de Dieu et la peur du silence sans devenir fou? Stanley Kubrick filme l'odyssée d'une humanité en dérive, en laissant à l'image le soin de signifier ce que le langage ne pourra jamais nommer. Demain, Philippe Rouillet arpentera le labyrinthe de Shining en compagnie de Jack Nicholson. Mercredi, Carole Desbarra partira en vaisseau spatial à bord de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et jeudi, c'est Michel Simon qui suivra les pas de Barry Lyndon. Mais pour l'heure, sans plus attendre, une comparaison oxymorique, un poème, une impossibilité occidentale, orange mécanique. Longtemps, la morale a protégé du désespoir et du saut dans le néant chez tels hommes et telles classes qui furent brutalisés et opprimés par des hommes. Si le souffrant, l'opprimé, perdait la croyance qu'il a un droit de mépriser la volonté de puissance, il entrerait dans un état de désespérance irrémédiable. La morale préservait du nihilisme les déshérités, dans la mesure où elle attribuait à chacun une valeur infinie et l'insérait dans une hiérarchie qui ne concorde pas avec celle de la puissance séculière. Si la croyance à cette morale disparaissait, les déshérités perdraient leur consolation et disparaîtraient. La disparition se présente comme un suicide, comme une sélection instinctive qui doit détruire. Symptôme de cette autodestruction des déshérités, le besoin d'actes qui attire l'inimitié haineuse des puissants, la volonté de destruction en tant que volonté d'un instinct encore plus profond, de l'instinct de l'autodestruction, de la volonté du néant. Le nihilisme comme symptôme de ce que les déshérités n'ont plus aucune consolation, de ce qu'ils se placent sur le terrain du principe opposé et veulent de leur côté aussi la puissance en tant qu'ils obligent les puissants à être leurs bourreaux.
One thing I could never stand was to see a filthy, dirty old drunkie howling away at the filthy songs of his fathers and going blurp, blurp in between, as it might be a filthy old orchestra and his stinking, rotten guts. I could never stand to see anyone like that, whatever his age might be, but more especially when he was real old like this one was.
Une chose que je n'ai jamais pu supporter, c'est de voir de vieux clochards poicres et sous-perdus bramant les vieux refrains poicres de leurs ancêtres en faisant blop, blop entre les deux. Comme s'ils avaient tout un bastringue poitreux dans leur vieille tripe pourrie. Je ne peux pas supporter de voir les types comme ça, qu'ils soient jeunes ou âgés, mais plus spécialement les vieux tout ridés comme celui-ci.
N'auriez pas une pièce de trop, mes frères? silence. Je ne peux plus vivre de toute façon. En tout cas, pas dans un monde si dégoûtant.
Oh, et qu'est-ce qu'il a de si dégoûtant, ce monde?
Il est dégoûtant parce qu'il n'y a ni loi, ni ordre nulle part. Il est dégoûtant parce qu'il laisse les jeunes s'attaquer au mieux comme vous faites. Oh, c'est plus un monde de vivable pour les vieillards. Oh, et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, notre monde? L'homme est sur la Lune, on expédie des fusées autour de la Terre et dans les étoiles, mais on ne fait plus attention ni aux lois ni à l'ordre de notre monde.
Oh, oh, Terre chérie, oh, je meurs pour toi, Terre.
Bonjour Sam Azulis.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance.
Merci.
Je suis très heureuse de vous accueillir car vous êtes l'auteur d'un excellent ouvrage consacré à Kubrick philosophe qui s'appelle Stanley Kubrick, une odyssée philosophique et publié aux éditions de la Transparence et dont il va être question notamment aujourd'hui. Dans, on va l'entendre, une des scènes qui ouvre Orange Mécanique, entre le clochard qui dit qu'il ne veut plus vivre dans un monde sans loi ni ordre et Alex qui veut détruire celui qui ne veut plus vivre dans ce monde, lequel est le plus nihiliste des deux?
Alors c'est une bonne question effectivement et je pense qu'elle nous renvoie à tout l'univers kubrickien. Déjà il y a des résonances dans cette scène avec par exemple le film Full Metal Jacket où on se souvient que la recrue baleine, la recrue Pyle, finalement en se suicidant dit qu'elle vit dans un monde de merde et qu'à la fin du film effectivement on reprend cette expression et cette fois c'est le Joker, donc c'est le personnage principal du film qui dit je suis dans un monde de merde, mais je l'accepte finalement et qui parvient à surmonter cela. Donc cette vision très noire, très pessimiste, on la retrouve dans beaucoup de films de Kubrick. Est-ce que pour autant on peut dire que Kubrick lui-même est un pessimiste ou même un nihiliste? On l'a taxé de nihiliste. Je ne le pense pas. Je pense que bon, certains critiques et analystes ont effectivement insisté là-dessus, mais je pense que c'est la problématique du nihilisme qui est au centre de l'œuvre de Kubrick. Et Kubrick, il est plutôt, à mon avis, un diagnosticien du nihilisme. C'est-à-dire que, comme Nietzsche, en quelque sorte, il va s'intéresser à cet objet philosophique très, très rugueux, très complexe, mais il ne va pas lui-même sombrer dans le nihilisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il partage avec Nietzsche une exigence qui est celle de la lucidité. Tous les deux se veulent très lucides, tous les deux ont cette ironie mordante, tous les deux refusent le pathos romantique, finalement. Alors, est-ce qu'il est pessimiste? Est-ce qu'il est gnostique? On a déjà dit que Kubrick et ses personnages en particulier éprouvaient un effroi devant le monde. Là aussi, je pense que effectivement, il y a certains personnages, on l'a bien vu dans cet extrait, qui ont une vision absolument noire du monde, mais Kubrick lui-même a cette très belle phrase, je trouve. Il dit « Quelle que soit l'immensité de l'obscurité qui nous entoure, nous devons apporter notre propre lumière. » Donc l'idée, c'est surtout d'être lucide, de réévaluer l'homme pour ce qu'il est et de ne pas se mentir à soi-même.
Et pourtant, il faut prendre l'idée même, le terme de nihilisme au sérieux, puisque ce terme a un sens dans la filmographie de Stanley Kubrick. Ce n'est pas simplement par effet cosmétique que nous parlons de nihilisme aujourd'hui. Nietzsche définit le nihilisme comme étant le fait que les valeurs suprêmes se dévalorisent. Et dans un texte intitulé « Le nihilisme européen », qu'on trouve aux éditions Quimet, dont j'ai lu un extrait en début d'émission, Nietzsche fait la distinction entre un nihilisme passif et un nihilisme actif. Le nihilisme passif serait celui qu'adopterait un homme qui, face à l'effondrement des valeurs, voudrait tout simplement la fin de tout. Ce serait la volonté de néant. Le nihilisme actif, au contraire, et c'est celui qu'incarne le personnage d'Alex dans Orange Mécanique, fait de cette fin de tout, de cette destruction, la source d'une reconstruction. Ça lui donne une espèce de gaieté, de joie, d'impulsion pour aller de l'avant et faire quelque chose. Si bien que l'opposition entre le nihilisme passif et le nihilisme actif est présente dès le début d'Orange Mécanique, entre d'un côté le clochard, qui ne veut plus vivre, et Alex, qui ne croit plus en rien, mais qui veut continuer à vivre, ne serait-ce que pour détruire.
Absolument. On se trouve confronté, dès le début d'Orange Mécanique, à ces deux types de nihilisme. un nihilisme qui est celui des déshérités, ce nihilisme passif, ce nihilisme en quelque sorte qui subit cette absence de valeur, cette dévaluation de toutes les valeurs, qui découle de quoi, pour Nietzsche, il faut quand même le signaler, de cet événement marquant qu'est la mort de Dieu. Mais attention, la mort de quel Dieu ? La mort du Dieu judéo-chrétien, c'est-à-dire celui qui nous surveille, celui qui nous juge. Et comme il n'y a plus de référent, eh bien, on est capable de tout. Et c'est peut-être Dostoïevski qui a le mieux problématisé l'équation du nihilisme, c'est-à-dire, puisque Dieu est mort, tout est permis. Eh bien, tout est permis, le problème, c'est que c'est nihiliste passif, ces déshérités dont nous parle Nietzsche, ce sont nous-mêmes, enfin ce sont nous, notre monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde dévalué où finalement l'homme ne s'est pas libéré de ses carcans, mais s'est enfermé dans une sorte d'individualisme mesquin, dans une sorte de qui s'est refermé sur lui-même finalement. Et ils sont gouvernés par quoi, ces nihilistes passifs? Par une jouissance un peu mesquine. Ce sont les hommes de la société de la consommation, la société du spectacle. Et finalement, ils souffrent, mais ils n'ont pas conscience véritablement de souffrir. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que parfois ils l'ont et parfois ils ne l'ont pas, cette conscience de souffrir. Et ça me fait penser effectivement à Heidegger qui avait cette belle formule, la détresse de l'absence de détresse. C'est-à-dire que le fait d'être en défaut de spiritualité, en défaut de valeur, mais de sentir que tout va bien malgré tout. Donc c'est une certaine médiocrité qui est dépeinte ici. Et puis s'oppose à ce néant de la volonté finalement, une volonté de néant. Cette volonté de néant, c'est celle du nihiliste actif. Le nihiliste actif qui veut tout détruire, qui veut précipiter la chute en quelque sorte. Et donc, cette volonté-là, c'est aussi une volonté de destruction, mais aussi d'autodestruction. Et on le voit bien dans l'œuvre de Kubrick. C'est par exemple la figure du docteur Folamour, qui a cette espèce de réflexe convulsif qui est agité par cette volonté de néant et qui finit par vouloir faire table rase de tout, pour instaurer une société dystopique effrayante.
Mais la figure d'Alex est ambivalente, puisqu'Alex est celui qui veut à la fois tout détruire et en même temps jouit de ce qu'il détruit et de ce qu'il fait, si bien qu'il n'y a pas un positionnement moral clair vis-à-vis du monde dans lequel il vit, car la violence qu'il inflige aux personnages qui l'entourent est égale à celle qu'il reçoit, et surtout dans la seconde partie du film, lorsqu'il va être d'abord incarcéré, puis ensuite mis dans un établissement médical pour lui faire passer la fameuse méthode Ludovico, qui consiste à lui maintenir les yeux écarquillés et projeter des images ultra-violentes devant lui pour guérir le mal par le mal. Ici, là, Alex est en fait la victime de ce qu'il dénonce par ailleurs. C'est bien qu'on a ici une violence contre violence qui fait que le spectateur ne sait pas où se situer. Oui. Le film lui-même n'est pas moral, en fait.
Mmh. Non, pas du tout. Il ne se situe pas au niveau d'un jugement moral. Et ce qui est intéressant, c'est que Kubrick joue avec l'identification du spectateur. Il y a une véritable réflexion sur la violence des images. L'identification, c'est-à-dire que, bien avant des séries comme Dexter, là, on trouve l'occasion de s'identifier à un criminel, à un sociopathe. Et le fait que les images soient si violentes, que cette première partie soit si violente, elle neutralise la distance critique que l'on pourrait avoir. Donc, on colle à ce personnage et puis soudain, au milieu du film, ce personnage est traumatisé. Ce personnage devient un rat de laboratoire, un singe qu'on est en train de vivisséquer dans un laboratoire, et cette expérience-là constitue pour le spectateur un choc, puisque ce bourreau qui dispensait des images de violence qui n'étaient pas analysées, qui n'avait aucun recul critique, soudain, lui-même devient le sujet d'une expérience où il est obligé d'avoir une distance par rapport à ce spectacle, où il est obligé finalement d'être, où il ressent des émotions qui sont contradictoires par rapport à ce qu'il voit. Et ça, c'est très intéressant parce que cela veut dire qu'il y a une réflexivité, même une double réflexivité dans le film de Kubrick. On nous invite à nous identifier, puis ensuite à remettre en question cette identification. À remettre en question notre statut, finalement, de spectateur, passif en tout cas. Donc, il y a véritablement chez Kubrick l'idée ou l'envie, en tout cas, d'insister sur les causes de la violence plus que les effets de la violence. Et puis, il y a chez Kubrick le rire. Le rire qui est un élément permanent pour lui, un rire froid, bien sûr, mais un élément de distanciation.
Yeah! bow. I'll sing to my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. I'm with the rain, I have a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing.
Singing in the rain, dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again.
Ce qu'un film fait de mieux, dit Kubrick, c'est d'utiliser des images avec de la musique, plutôt donc que des idées avec des dialogues. Exemple avec l'extrait que l'on vient d'entendre, Sam Azoulay, c'était la scène de viol, puisqu'il y a une scène de viol au début d'Orange Mécanique, je crois entre la 10e et la 15e minute, où Alex et ses amis, ses drugs, puisque nous ne l'avons pas dit, mais Alex et ses amis parlent un langage, le Natsat, un langage difficilement compréhensible, qui est une espèce de remix de la langue russe modernisée. Et un soir, ils s'ennuient, ne savent pas quoi faire de leur soirée, ils vont sonner chez des gens et prendre en otage un couple, un écrivain et sa femme. Et l'extrait qu'on entendait, où on entendait Alex en train de fredonner, de donner des coups, était en fait montrait le décalage entre ce que l'on entend, quelqu'un qui fredonne, et des coups, on ne sait pas trop ce qui se passe, et ce que l'on voit, qui est là d'une violence absolue, puisqu'il va bâillonner l'homme et la femme, découper avec à l'aide d'un ciseau le vêtement de la femme de manière à la rendre quasiment nue. Et ce décalage-là est extrêmement puissant, puisqu'on a ici toute la force cinématographique du travail de Kubrick. Ce qu'il dit, on disait que ce n'était pas un film moral, il n'y a aucune prise de position théorique, mais l'image dit tout, sans même qu'on ait besoin de le redoubler d'un discours d'introspection théorique.
Absolument. Je pense que ce qui est intéressant chez Kubrick, c'est qu'on est, disons, du propre aveu de Kubrick lui-même, dans un cinéma qui philosophe à sa façon. C'est-à-dire qu'il y a comme le dirait Deleuze, on est confronté effectivement à des images mouvement, à des images temps qui pensent. Ce ne sont pas des concepts, ce sont des images. Mais il y a quand même une pensée. Et puis, Kubrick lui-même revendiquait cet aspect très philosophique de son cinéma. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle d'ailleurs, il a voulu confier AI à Steven Spielberg. Il estimait qu'il en aurait fait un film trop philosophique. Et donc, il y a une confrontation possible entre ces images, la pensée qu'elles produisent et la philosophie en tant que telle. Et ça me semble très important et très intéressant. Et en ce qui concerne en particulier cette scène, c'est vrai qu'on est dans une description de la violence qui est tout à fait spécifique. On n'est pas devant un tueur en série comme on a l'habitude de les voir. On est devant quelqu'un qui est cette énergie, qui a cette énergie vitale débridée. On est dans une sorte de happening. C'est vrai que dans cette scène, dans cette fameuse scène, on a d'abord une sorte de lent travelling latéral qui nous présente un univers tout à fait ordonné, celui de l'écrivain Alexander, qui est le double en fait de Alex Delarge, le héros du film, et de sa femme. Et puis ce quotidien-là, cet univers très équilibré, eh bien, il va être complètement bouleversé par l'arrivée d'Alex et de ses drugs. Et c'est pourquoi on est alors plongé dans un filmage qui est caméra à l'épaule. Mais très vite, dans la scène, on va se stabiliser. Très vite, on va obtenir une sorte de point de vue qui est celui d'Alex qui traumatise véritablement ce pauvre homme. Et donc, il y a non seulement une anarchie au début, qui est une sorte de filmage un petit peu tumoral, on pourrait dire, et puis ensuite, il y a une ritualisation. À quoi correspond cette ritualisation? Eh bien, elle correspond finalement à un happening. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'art contemporain. Alex est un véritable performeur. D'ailleurs, le tournage lui-même s'est passé comme un happening, puisque Kubrick a demandé à son interprète Malcolm McDowell d'improviser une chanson, et il l'a trouvé effectivement Singing in the Rain.
C'est quand même un pied de nez aussi aux comédies musicales hollywoodiennes.
C'est tout à fait un pied de nez. On tourne ces comédies musicales en dérision, mais c'est tout le rapport à l'art dans Orange Mécanique qui est en question. Parce que l'art d'Orange Mécanique, c'est en même temps un art kitsch, ultra pornographique.
Tout est esthétisé, en tout cas, dans ce film.
Tout est esthétisé, effectivement. Mais le grand art est mêlée au, à l'art le plus kitsch. Beethoven côtoie effectivement ses peintures pornographiques de la femme au chat. Donc il y a l'idée d'une esthétisation de ce monde et l'idée surtout que Alex, en tant que performeur, en tant qu'artiste du crime, vit dans l'éphémère, vit dans l'instant présent. Et c'est un indice qui nous permet de dire que de relier ça, en fait, finalement, à l'hypermodernité. C'est-à-dire au fait qu'on ne se projette plus dans l'avenir, on ne se projette plus dans le passé, on vit dans le présent. Et le présent est en perpétuel changement, perpétuelle métamorphose, comme l'est Alex lui-même, finalement. Alors ça, c'est assez intéressant. Et effectivement, il y a cette particularité d'Orange Mécanique, c'est que dans les autres films de Kubrick, on a un système ordonné, un système qui est stable. On nous présente le 18e siècle dans Barry Lyndon, on nous présente le vaisseau spatial Discovery dans 2001, on nous présente le camp d'entraînement dans Full Metal Jacket. Tous ces systèmes vont être troublés par ce fameux grain de sable qui va parasiter la machine. Et bien là, c'est l'inverse. On nous présente l'entropie, le chaos, et on va tenter d'ordonner tout ça. Mais ça ne va pas fonctionner, précisément parce qu'il y a quelque chose d'irréductible là-dedans. Il y a une puissance irréductible.
Vous parliez de métamorphose, le film change sans cesse, mais il revient aussi sur ses pas, puisque alors une fois qu'Alex va subir un traitement spécial destiné à le rendre bon, il va retourner chez lui et le film va proposer des scènes quasiment identiques à celles qui ont constitué la première partie du film. Mais cette fois-ci, Alex ne reconnaîtra plus le monde dans lequel il vivait. Ses parents l'ont remplacé par quelqu'un d'autre, aussi simplement que ça. Il va retrouver ses drougs de ses amis qui sont eux devenus policiers, qui vont le tabasser pour se venger, puisqu'Alex était retourné contre eux pour rester le chef du gang. Et enfin, il va retourner dans la maison où il avait été, la maison où il avait commis la scène du viol. Et cette fois-ci, les choses vont se retourner contre lui. Et il fait ici l'expérience d'un... On passe du jouisseur du présent qu'était Alex à une espèce de position de spectateur passif qui est dans un scepticisme absolu. Il ne reconnaît plus rien. Là, on est quasiment dans Capra, hein, James Stewart, qui dans La vie est belle, qui vit dans un monde où il n'existe plus. C'est une expérience qui, là encore, passe par l'image. Et c'est en ça, c'est une expérience cinématographique qui est unique.
Absolument. Absolument. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette deuxième partie nous montre la réversibilité qui existe entre le nihilisme actif et le nihilisme passif. C'est-à-dire que cette volonté de néant, elle se transforme en néant de volonté. Alex, effectivement, est néantisé par le traitement Ludovico. Mais le point de vue de Kubrick, et ce qui rend le film passionnant, c'est qu'on n'est pas dans une approche idéologique ou politique. Il y aurait des visions simplificatrices qui pourraient dire, bon ben voilà, ce que nous montre Orange Mécanique, c'est simplement le fait que cette société gangrénée, décadente, elle produit un nombre considérable de délinquants. Ou alors, il y aurait une vision simplificatrice aussi qui réduirait le film à une critique de la domestication de l'homme par un État totalitaire, une sorte en fait de critique, voilà, de tous les mécanismes qui tentent d'arrêter l'homme. Mais on est dans autre chose avec Orange Mécanique. On est dans une approche qui justement rappelle celle de Nietzsche. C'est une approche physiologique. C'est l'approche physiologique d'un sujet vivant. Et c'est Alex qui est ce sujet vivant. Alors Nietzsche, c'est intéressant, distingue d'une part des excitations qui sont en fait ce qu'on subit quand on est sujet des stimuli du monde extérieur, et puis de l'interprétation active qu'on en fait. Cette interprétation active, elle peut être du plaisir ou de la douleur. Eh bien, le traitement Ludovico, justement, va chercher à dissocier les associations qui existent entre l'excitation d'Alex et son interprétation active. Ce qui, normalement, était interprété comme du plaisir, va être interprété comme de la douleur, comme de la souffrance, comme du déplaisir. Et précisément, il va y avoir une dérégulation. Mais c'est quelque chose dont Kubrick nous parle d'un point de vue physiologique. Il va y avoir une dérégulation du sujet vivant, Alex. Et étonnamment, vers la fin du film, on va assister, après qu'il ait justement traversé, puisque effectivement Orange Mécanique est une sorte de contre-initiation. Là, on est dans une structure un petit peu symétrique que privilégie Kubrick, c'est la structure des contes philosophiques, ceux de Voltaire ou de Swift. C'est une structure super symétrique. On la retrouve dans Barry Lyndon, on la retrouve dans Eyes Wide Shut. À la fin, effectivement, ce qui se passe, c'est que l'autorégulation interne de Alex va être rebootée, si je puis dire, comme on le dit d'un ordinateur. Elle va être réinitialisée en quelque sorte. Et donc, ce sur quoi insiste véritablement Kubrick, ce qui est vraiment passionnant, c'est l'idée que le corps sujet est plastique, qui dispose d'une plasticité incroyable, d'une capacité d'auto-guérison. Et donc, il doit être conçu avant tout comme une pluralité interne. C'est ça qui est vraiment passionnant.
Que signifie déshériter ? À comprendre avant tout physiologiquement et non pas au sens politique. Le type humain le plus malsain est le terrain de ce nihilisme. Il ressent la croyance dans l'éternel retour comme une malédiction qui, si elle atteint, ne fait plus hésiter devant aucun acte. Non pas s'éteindre passivement, mais faire que tout s'éteigne. Tout ce qui est à ce point dénué de sens et de but, même si ce n'est qu'une convulsion, une fureur aveugle dans l'évidence que tout existe de toute éternité.
So far, the first film was a very good professional piece of cine, like it was done in Hollywood. The sounds were real horror show. You could slushy the screams and moans, very realistic. And you could even get the heavy breathing and panting of the tall, chopping Malchiks at the same time.
Le premier film commença très bien. Du beau travail de professionnels, digne de Hollywood. Le bruitage était très garacho. On slouchait les cris et les gémissements comme si on y était. Et même les halètements et les souffles des Malchiks qui talchoquaient le type. Et bientôt, ô ivresse, la bonde a sauté, laissant jaillir le bon vin rouge, rouge, rouge. La bonne sève naturelle, fabriquée par la maison mère, commença à couler. C'était super. C'est drôle comme les couleurs de la vigne semblent vraiment vraies que lorsqu'on les voit sur un écran de cinéma. Mais alors que j'étais en train de m'y rire, j'eus soudain la vague sensation de ne pas être dans mon assiette. J'attribuais cela à mon régime trop riche et à toutes ces vitamines. D'ailleurs, j'eus vite oublié ce malaise, tant je me concentrais sur le film suivant. Une jeune Devotchka à qui une bande de Malchiks offrait une partie de Savasavien. Un premier Malchik, puis un autre, et un autre encore. Quand ce fut le tour du sixième ou septième Malchik, grimaçant et schméquant de 6 mètres, je me sentis malade pour de bon. Mais impossible de fermer mes persiennes. J'avais beau rouler de la pupille, je ne pouvais pas échapper au feu roulant de l'écran.
Détachez-moi! Je veux vomir! Assez, je vais vomir, je vous dis!
Maman, s'il te plaît, ne m'envoie plus à l'hôpital. Je n'en peux plus, je m'y sens mal. Pas l'hôpital, pas l'hôpital. Là-bas, les gens sont trop bizarres. Quand je pense à eux, je fais des cauchemars. Mentalement, je n'ai pas de retard. Maman, je ne veux plus les voir. Je te jure que je suis plus fou. C'était avant quand j'étais fou. L'autre fois, ils voulaient me taper. Et je ne supporte pas l'antibou. Je t'en supplie, les appelle pas. Ils vont me sucer le cerveau. Non, maman, non, ne le fais pas. Je serai doux comme un agneau. Ils me donnent des coups de trique. Ils disent que je l'ai mérité. Ils me bourrent de barbiturique. Alors que je n'avais rien fait. S'il te plaît, tu sais bien qu'ils vont m'attacher. Maman, je t'en supplie, je ne veux plus y retourner.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h29 et c'est le premier temps aujourd'hui de notre série d'émissions consacrée à Kubrick. Philosopher avec Kubrick, c'est ce que nous vous proposons cette semaine. Et pour l'occasion, pour ce premier temps, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Sam Azulis, auteur d'un ouvrage sur Kubrick intitulé Une odyssée philosophique et publié aux éditions de La Transparence.
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux qu'on se tape ? Pourquoi t'as qu'à presser sur stop si ça constipe, trop constipe ? Tu veux ma peau, mais je suis déjà mort. Déjà tout petit, j'avais pigé que j'en avais déjà marre. Pour te cacher, c'est pas du cha-cha-cha, pas de chichi, et c'est pas de chi comme ça me dire Natacha. C'est très fâcheux, je suis trop fâché, car tout est fichu. Continue à faire chier, tu finiras au CHU. C'est la SFH, lapin, viens pas tester.
C'est drôle comme les couleurs de la vie ne semblent vraiment vraies que quand on les voit sur un écran de cinéma. C'est la réflexion que se fait Alex alors qu'on projette devant lui des scènes de films ultra-violentes. C'est lui qui revendique l'ultra-violence. Et alors qu'il assiste à une scène de viol qui le rendait plutôt joyeux quand c'est lui qui en était l'auteur, ici ça le rend absolument malade. le lien qu'il y a à faire ici entre le procédé de moralisation d'un individu par un État beaucoup plus violent que l'individu lui-même, ou en tout cas tout aussi violent, et le fait qu'il devienne un spectateur passif d'images qui défilent devant lui. Ce lien, c'est sans doute la machine, Samazulis, puisque non seulement c'est le cinéma, puisque c'est les images sont projetées à l'aide d'un projecteur, ici une mise en abîme évidemment du spectateur face à son écran, mais aussi cette machine insensée qui maintient les yeux d'Alex écarquillés de manière à ce qu'il ne puisse pas cligner des yeux, et donc animalise complètement l'individu, de manière, vous l'avez dit, à associer un instinct à une idée. Et donc, dès lors qu'il voit quelque chose qui le fait souffrir, il se souviendra, il y a comme une trace mnésique ici qui fait qu'il ne pourra plus commettre le mal, parce que dès qu'il verra le mal, il aura envie de vomir. Et ici, c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé, qui pour le coup est constitutif du travail même de Kubrick, c'est celui de la machinisation de l'homme. Animalisation d'un côté, machinisation de l'autre.
Effectivement, parce que le thème superficiel d'Orange Mécanique, on pourrait penser que c'est celui qui est formulé par le meunier dans la fameuse scène de la prison. Le meunier dit, bon, écoutez, le problème, c'est celui du libre arbitre. Est-ce qu'en supprimant le libre arbitre, on peut rendre un homme bon? C'est une problématique assez superficielle et il est évident que la réponse à cette question est négative. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Kubrick le travaille, comme on l'a dit, d'un point de vue physiologique. Et ça veut dire qu'on peut reformuler cette question d'une façon peut-être plus pertinente. L'enjeu du film me paraît être le suivant, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas tous à plus ou moins long terme condamnés à devenir des oranges mécaniques? Qu'est-ce que c'est qu'une orange mécanique? C'est quelque chose qui est à la fois organique et qui est à la fois mécanique. Donc c'est effectivement le devenir machine de l'homme qui est en question, une tendance irrépressible, mais en même temps une tendance complètement aberrante, un besoin prométhéen. Comment lutter contre ce devenir machine? C'est la question que se pose Stanley Kubrick dans Orange Mécanique. La problématique de la technique occupe une place centrale dans le film, comme dans d'autres films de Kubrick. D'abord, il y a l'idée d'Alex qui est lui-même... Alors, Kubrick l'a conçu comme un archétype, hein, Alex. Il fait souvent référence à Richard III quand il en parle. On peut aussi penser au Dr. Jekyll, à Mr. Hyde, au Dr. Jekyll, sauf que là, c'est inversé. On se retrouve avec un Mr. Hyde qui est absolument abject et que tout le monde rêve de voir disparaître. On va inventer une sorte de traitement à l'aide de psychotropes pour le transformer en Jekyll. Le problème, c'est que ce Jekyll-là, eh bien, il est complètement apathique, complètement passif, il n'a plus... Il est lobotomisé. Donc, il y a cette équivalence. Là. Et puis, il y a l'idée que dans la fameuse scène de la marina, c'est la scène où Alex va s'en prendre à ses drugs parce qu'il y a des problèmes de leadership au sein du groupe. Et donc, il va les taper en utilisant cette fameuse canne épée, hein, puisque c'est un être à la mode et donc il a toutes sortes d'artifices à ses dispositions. Cette canne épée donc. Et ce qui est intéressant dans cette scène où il corrige ses drugs, c'est qu'elle est fait directement écho à 2001, l'Odyssée de l'espace. Effectivement, on a le même ralenti, la même contre-plongée, la même attitude simiesque, accroupie, qu'on retrouve avec les singes proto-humains.
Qui découvrent un os et qui se rendent compte que l'os peut les aider à taper les autres.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est très intéressant d'établir ce parallèle, parce que là, on entre dans l'anthropologie de Stanley Kubrick. Il y a une véritable anthropologie, je pense, dans les films de Kubrick, plus particulièrement, évidemment, dans 2001, hein, qui est une espèce de film colossal, encyclopédique. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est peut-être, d'ailleurs, l'un des liens les plus clairs, les plus nets qu'on puisse établir entre Stanley Kubrick et un philosophe. Je pense là à Oswald Spengler, qui a écrit « L'homme et la technique ». Il est tout à fait confondant, en lisant le livre de Spengler et en visionnant 2001, de voir à quel point ces deux univers convergent. L'homme est envisagé comme un prédateur surdoué, comme un être, comme un tueur virtuose. Et de toute évidence, ce qui signale pour Kubrick l'avènement de notre humanité n'est pas, comme chez beaucoup de philosophes, comme chez Heidegger par exemple, le langage, mais la technique, l'invention de la technique. Et ce qui est intéressant, c'est que la technique et le crime sont co-originaires. Donc l'homme est défini en même temps. Donc chez Heidegger, on sait bien que la technique vient après la métaphysique. Chez Kubrick, non, c'est l'inverse. D'abord, il y a la technique, il y a la culture de la technicienne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce singe qui va utiliser un outil qui va se servir d'un outil pour tuer, eh bien, il n'est pas si différent que les astronautes qu'on verra plus tard se disputer autour, enfin, discuter autour d'une table, en utilisant cette fois-ci le langage. Mais le langage est un outil aussi, un outil de domination, de protection du territoire. Et c'est exactement ce qu'on voit aussi dans Orange Mécanique, où autour de cette mare, qui fait écho aux autres films, et à 2001 en particulier, Alex va utiliser sa canne-outil pour mater ses drugs. Donc on retrouve cet instinct-là, qui est l'instinct de la prédation et qui est lié à la vision. Ça aussi, c'est très présent chez Spengler, c'est omniprésent chez Kubrick. L'idée que l'œil, que la vision est un instrument, est un outil aussi de domination.
Alors, je suis contente que vous abordiez le thème de la vie, parce que en vous écoutant, je pensais peut-être qu'il manquait un troisième élément pour essayer de compléter le portrait du personnage kubrickien. D'un côté, la métaphysique ou le langage auquel on tourne le dos. De l'autre, la technique est un instrument de destruction qui fait de l'homme peut-être un tueur né, mais il manque autre chose, c'est la musique. La musique est omniprésente dans tous les films de Kubrick, rien que dans les extraits qu'on a entendus, on l'a vu, le clochard chantonnait, la scène du viol est faite en chantonnant, jusqu'à la scène que vous évoquiez où Alex rebelle contre ses amis et leur rappelle que c'est lui le chef. Il le dit très bien, il dit mais de toute façon arrêtons de nous, je sais plus comment il dit, de nous presser le ciboulot, de se perdre dans les réflexions. C'est en entendant de la musique qui venait d'une fenêtre ouverte que j'ai décidé d'agir. La musique qui va jusqu'à la fin du film prendre une place très importante lorsque, en regardant les images violentes, qu'il visionne tout en écoutant la 9e symphonie de Beethoven, et c'est là où il pète les plombs littéralement. Il dit mais vous ne pouvez pas, c'est un crime. C'est là où il devient lui-même moral, il parle de crime, scène, un péché en anglais. Vous ne pouvez pas diffuser une image aussi violente en diffusant du Beethoven en même temps. Et c'est là où il n'est pas si nihiliste que ça, puisqu'il y a cet amour de la musique, est une manière de vivre, une manière esthétique de vivre. Et c'est aussi la troisième composante qu'il a faite d'ouïe. Donc là, on est dans le cinéma, la vue d'un côté, vous l'insistez, et l'ouïe de l'autre, qui est la musique et qui est aussi l'humanité de l'homme et qui sauve peut-être l'homme de sa machinisation, destruction prévue.
Absolument. La musique aussi, c'est la plasticité, effectivement, de ce corps-sujet. Mais ce qui est intéressant chez Kubrick, et je pense que là, on peut relier ça à son esthétique, à l'esthétique qui lui est propre, c'est une esthétique polysémique. Et c'est vrai qu'il utilise à chaque fois, on le voit bien dans Barry Lyndon, par exemple, il utilise le même morceau, et dans Orange Mécanique, évidemment, pour nous signifier plusieurs choses différentes. D'abord, cette ironie par rapport au siècle des Lumières, évidemment, puisqu'il utilise l'ode à la joie, qui est effectivement censé célébrer cette raison triomphale, cette raison triomphante, cette raison instrumentale, qui en fait, là, dans le film, est complètement moquée. Eh bien, à la fin, effectivement, elle permet à Alex d'atteindre un état qui est presque extatique, puisqu'il se retrouve à se fantasmer en train de copuler devant un parterre de gens extraordinairement bien habillés, qui rappellent un petit peu...
Ça, c'est la dernière scène du film.
Oui, c'est la dernière scène, cette espèce de vision épiphanique d'Alex. Et on se dit, ah bon, est-ce que finalement, il s'en est sorti? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce nihilisme actif, le nihilisme qui détruit et que représente Alex, tend vers autre chose que simplement la destruction. On a en ligne de mire des personnages de Kubrick qui vont réussir à surpasser, en un sens, à surpasser le nihilisme. Nietzsche parle dans ce contexte-là de nihilisme extatique ou de nihilisme créateur. Mais le problème, c'est que Alex est un surhomme perverti, un surhomme vicié. Et on le voit très bien, notamment, et c'est montré à travers des images, comme le fait toujours Kubrick, à travers ce rictus, cette face de singe, qui est celle d'Alex à la fin, une face orgasmique, qu'on retrouve dans plein de films de Kubrick.
Dans Shining.
Dans Shining, évidemment, le fameux Jack, qui lui aussi nous fait très peur avec ce visage figé, d'ailleurs ce visage qui se fige à la fin, dans un rictus de glace. Et puis, la recrue Pyle, recrue Baleine, qui au moment
Full
de
Metal Jacket.
Voilà, que au moment de se suicider, effectivement, est dans cette étonnante crispation. Ce sont des êtres qui n'ont pas réussi à passer ce seuil et qui, malheureusement, vont rester dans une forme de nihilisme. Et ce qui est intéressant dans Orange Mécanique, c'est que ce personnage, qui était ce personnage de la destruction, il conclut un pacte avec le ministre. Donc, d'une certaine façon, il est récupéré par le nihilisme passif, et il va devenir, on peut le supposer, un agent, comme ces drugs qui eux-mêmes sont devenus des policiers. En tout cas, il y a une neutralisation de cette puissance, ou une incorporation plutôt de la puissance de nuire d'Alex dans la société. Et ça, c'est très intéressant, et ça nous renvoie à un autre aspect peut-être de la technique qui est lié à peut-être ce que Heidegger appelle le gestell, le dispositif, c'est-à-dire en fait toutes les procédures qui participent de l'uniformisation du monde. Effectivement, on retrouve cette idée-là que le traitement Ludovico, ce n'est pas simplement, comme on pourrait le croire, disons, un point de vue sur une société totalitaire ou la mise en œuvre d'un processus de domestication de l'être humain. C'est aussi une critique, et c'est pour ça que Orange Mécanique est d'une actualité brûlante, c'est une critique de notre modernité, et même, je dirais même, de notre postmodernité ou de notre hypermodernité. Pourquoi ? Kubrick le dit lui-même, dans nos sociétés, on est conditionné. C'est un conditionnement hallucinatoire, multimédia, là je cite Kubrick, quadriphonique, psychotrope de l'être humain, par d'autres êtres humains. C'est le début de la déchéance de la citoyenneté humaine et l'avènement du royaume des zombies. Donc en fait, c'est aussi à travers ce processus, le nihilisme passif de notre société qui est critiqué par Stanley Kubrick. Et on le retrouve dans d'autres films, dans plein d'autres films, dans 2001 évidemment, où ces astronautes évoluent dans un univers aseptisé, monotone, triste, dans Shining, où l'Overlook, justement, ce fameux hôtel, voilà, l'hôtel de Shining, n'est pas un lieu hanté classique, comme dans le roman de Stephen King, où il y a effectivement toujours le cerveau de la maison hantée. Là, non, on est dans un univers qui est dans une puissance de vision irrationnelle et panoptique, en quelque sorte, et qui est censé être consacré à la planification, à l'organisation des ressources humaines, mais qui en fait va régurgiter tout le refoulé de la société occidentale, évidemment, à travers le génocide des Indiens, mais aussi, on peut se l'imaginer, tous les autres génocides. Donc, ce que travaille au corps Kubrick, c'est ce refoulé, cet irrationnel qui hante la raison instrumentale, qui est toujours derrière elle.
Et qui est, cette raison qui est derrière elle, mais qui en même temps est sans cesse fait l'objet de manipulations dans les deux sens du terme. D'ailleurs, c'est la raison qui manipule les objets qu'il y a autour d'elle, et c'est la raison qui est manipulée dans le cas de l'expérience Ludovico. Un mot quand même sur la postérité. Vous parlez de l'actualité brûlante d'Orange Mécanique. Le film est sorti en 1971. La scène du viol, dont on a entendu un extrait, on la retrouve de manière très proche, très similaire, notamment dans Funny Games d'Haneke, où on a aussi ces deux personnages habillés en costume là, de golf, de blanc vêtus, qui vont procéder à une séquestration d'un couple. Et l'écho est assez flagrant quand on voit les deux films. Et cette même réflexion sur la violence de l'image et sur le rôle du spectateur qui semble pris en otage face à une telle violence. Pourtant, Haneke ne filme pas le corps de la femme nue quand Kubrick le fait. Mais c'est quand même fascinant de voir qu'un film qui date quand même donc de 71 peut encore... Enfin, je veux dire, quand on le regarde aujourd'hui, sans doute certaines personnes ne seront pas d'accord, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas pris une ride. Il est d'une actualité, c'est vrai. Les problèmes sont les mêmes, et peu importe que le décor soit dans les années 70, que les femmes aient des perruques violettes et autre chose, c'est exactement la même chose.
Tout à fait. Parce que le cœur du film, c'est l'éphémère, justement. C'est la mode, c'est le présent. Mais le présent hédoniste, le présent qui se substitue à toute autre temporalité, au futur, au passé. Et c'est intéressant que vous fassiez la référence à Haneke, parce que Haneke lui-même avait un point de vue un petit peu dépréciateur par rapport à Orange Mécanique. Mais moi, je trouve personnellement que son film est beaucoup plus didactique, dans la mesure où, finalement, c'est une succession de scènes de violence. À la fin, on a cette espèce de jeu avec le spectateur, il y a cette scène de la télécommande. Mais Kubrick, ce qu'il arrive à faire dans Orange Mécanique, c'est vraiment une distanciation du spectateur à partir du moment où on a ce traitement Ludovico. Il y a une véritable réflexivité, on l'a déjà dit, dans Orange Mécanique, qui fait que c'est un objet de réflexion tout à fait consistant. Et un film qui s'inscrirait dans, je dirais, le sillon d'Orange Mécanique, pour moi, serait plutôt le Fight Club de David Fincher. Dans la mesure où cette ambivalence, cette réversibilité du nihilisme, celui qui veut détruire et celui qui subit, qui est dans une passivité absolue, dans un délabrement dont il n'a même pas conscience, il est incarné par le personnage de Tyler.
Qui est les deux.
Ouais. C'est une forme de schizophrénie. On retrouve le Jekyll et le Hyde. Mais là, ils sont introjectés, ils sont intériorisés. Ils sont les deux. En même temps, il achète des meubles Ikea. En même temps, il veut faire sauter le World Trade Center.
9e symphonie de Beethoven, version Wendy Carlos. Merci beaucoup, Sam Azulis, d'être venu nous parler d'Orange Mécanique et du Kubrick aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Une odyssée philosophique, Stanley Kubrick, aux éditions de la Transparence. On en a beaucoup parlé, le nihilisme européen de Friedrich Nietzsche est disponible aux éditions Quimet, et puis aussi les entretiens que Michel Simon a obtenus de Stanley Kubrick, qu'on trouve aux éditions Kalman Levy. Encore 2 minutes, papillon. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et nous nous demandons si les caniches seraient peut-être la preuve de l'existence du destin. Eh bien, réponse avec Paul Mathias, philosophe, adepte de Stanley Kubrick, pour qui la dimension métaphysique de son cinéma tient à la présence d'un caniche dans Ultime Razzia. C'est au micro de Géraldine Mosna-Savoie.
Parlons de l'Ultime Razzia, un film de Stanley Kubrick qui date du début des années 50. L'histoire est très simple, c'est une histoire de gangster. Le personnage principal, joué par Sterling Hayden, est celui de ce que j'appellerais un gangster métaphysique, c'est-à-dire pas simplement un malfrat, mais un malfrat dont on sent qu'il est au cœur d'un destin, qu'il va accomplir un destin. Alors son destin, c'est d'organiser le braquage des caisses d'un champ de course, ce qui, malgré de multiples péripéties, finit par réussir. Et Sterling Hayden doit prendre l'avion pour quitter le territoire avec une valise remplie de billets. À côté de lui, on remarque la présence d'une vieille dame qui porte avec elle un caniche, un de ces petits chiens dont un de mes amis disait qu'ils étaient la preuve que Dieu n'existe pas. Tandis que Sterling Hayden observe le parcours de sa valise sur le chariot entraîné par une petite voiture, il se trouve que le chien échappé des bras de cette vieille dame court sur la piste, le conducteur du chariot fait un détour pour l'éviter, le chariot à bagages se renverse, la valise de Sterling Hayden se renverse, elle s'ouvre et avec les moteurs d'avion, évidemment, la totalité des billets s'éparpille en l'air et tout le butin part, pour ainsi dire, en fumée. Et c'est l'accomplissement de son destin. C'est la fin, la vraie fin. On peut imaginer que la signification que prend le casse dans cette histoire, c'est celle d'une rupture avec un destin annoncé. Donc le personnage fait tout pour prendre lui-même en main son destin, pour rompre avec une logique qui le dépasse totalement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'avec le caniche, cet être qui prouve l'inexistence de Dieu, le destin s'accomplit. Là, on pourrait dire le caniche prouve l'inexistence de Dieu, mais il prouve aussi l'existence du destin.
Du caniche au gangster métaphysique, c'est du Stanley Kubrick jusqu'au bout. C'était les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Kubrick. Demain, préparez-vous, nous arpenterons le labyrinthe mortifère de l'Overlook, l'hôtel de Shining. Mais heureusement, c'est Philippe Rouillet qui sera notre guide. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales, cinématographiques concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et enfin, toute l'équipe vous donne rendez-vous sur la page Facebook de l'émission où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.